Vous écoutez, on lit pour vous.
Entrevue, mieux vivre au travail et échapper à l'épuisement. Un texte d'Annie Labrec, paru le 5 novembre 2024 dans Québec Science. Comment ralentir le rythme effréné de nos vies professionnelles et y retrouver un certain bonheur? L'auteur et psychologue Frédéric Banville propose des pistes de réflexion pour redéfinir notre rapport au travail et préserver notre bien-être. Frédéric Banville, professeur et directeur du programme de doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Rimouski, a publié récemment « Comment survivre à son quotidien au travail quand Atlas rencontre Sisyphe, presse de l'Université du Québec ». Dans cet ouvrage sur notre rapport au travail et sur l'épuisement professionnel, l'auteur invite à réfléchir sur le rythme effréné de nos vies et propose des pistes pour réhabiliter la lenteur. Québec Science. Dans la préface de votre livre, Sébastien Moussy, professeur de philosophie au Collège de Maisonneuve, mentionne que le mot « travail » provient du latin « tripalium », qui signifie « torture ». Pensez-vous que cette étymologie reflète encore notre rapport au travail aujourd'hui? Frédéric Banville. Sébastien Moussy se demande si le travail reste perçu comme une contrainte. J'aurais tendance à dire que notre contexte moderne perpétue un rapport tordu au travail. À travers le livre, j'aborde le rythme de travail effréné et les obligations que l'on s'impose collectivement. Je m'interroge moi-même, comme professeur d'université. Pourquoi un tel rythme? Avons-nous encore du plaisir à travailler? Québec Science, vous proposez des pistes pour éviter l'épuisement professionnel. Pouvez-vous partager quelques stratégies pour aider à mieux vivre le quotidien au travail? Frédéric Banville. L'aspect le plus important est de se demander si nos actions sont alignées avec nos valeurs. Avant de s'engager dans une tâche, demandons-nous si elle est guidée par nos valeurs ou par une obligation. Cette réflexion sur nos valeurs est fondamentale au bien-être. Si l'on met au centre ce qui est vraiment important pour nous et qu'on fait des actions engagées pour se diriger vers la chose qui compte pour nous, on fera des choix plus éclairés. Par exemple, si je travaille 50 heures par semaine et que je vis de la pression, est-ce que je le fais parce que travailler est une valeur importante pour moi? Si oui, il y a une certaine cohérence. On peut aussi y réfléchir aux autres champs de sa vie que l'on réprime ou auxquels on ne porte pas suffisamment d'attention, comme les loisirs, la vie familiale. Cependant, une personne qui développe de l'épuisement professionnel peut difficilement prendre du recul face à sa situation. Le contexte de travail fait en sorte que, à un moment donné, on a une vision un peu en tunnel de ce qui se passe et l'on perd de vue certains repères. Dans mon livre, je propose des stratégies pour y remédier, autant du point de vue de la société qu'individuel. Il s'agit notamment d'adopter de saines habitudes de vie et de prendre conscience d'où je suis, de ce que je fais et de ce qui est important pour moi. Il faut ponctuer le rythme du travail de moments où l'on se recentre sur soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais le but et d'avoir la capacité saine de prendre une distance suffisante pour ne pas se laisser envahir par les obligations. Il faut que je fasse ceci, que je rencontre cette personne, que j'aie cette réunion. Ces obligations viennent surcharger mentalement et psychologiquement la personne. Québec Science. Vous soulignez que la pandémie a probablement exacerbé la confusion entre vie personnelle et vie professionnelle, surtout pour ceux et celles qui travaillaient à la maison. Pouvez-vous nous en dire plus? Frédéric Banville. D'un côté, certaines personnes ont trouvé le télétravail apaisant, mais pour d'autres, cela a amplifié la charge de travail. Je vais donner un exemple concret de mon expérience comme professeur d'université et directeur de département à l'époque. Au début du confinement, il fallait gérer la pandémie elle-même, les locaux, les employés, les professeurs. Les réunions Zoom s'enchaînaient les unes après les autres du matin au soir, sans aucune pause. Je voyais aussi mes collègues féminines qui devaient jongler avec leurs enfants pendant les réunions. La pandémie a exacerbé le rythme de travail, les obligations et a renforcé cette dureté que l'on a envers soi-même. Et ce n'était pas seulement dans le milieu universitaire, mais aussi dans d'autres secteurs de la société. Après la pandémie, on a continué à préférer Zoom au fait d'aller se voir parce que c'était plus rapide, mais au bout du compte. Je pense qu'on a surmené notre cerveau en faisant ça. À mon avis, ce n'est pas sain ni pour le fonctionnement neurologique et neuropsychologique, ni pour les aspects affectifs. Québec Science. Malgré les avancées technologiques, notre charge de travail ne diminue pas nécessairement. Pourquoi, selon vous, persiste-t-on encore à courir ainsi? Frédéric Banville. Au départ, la technologie devait nous aider à gagner du temps et à alléger nos tâches. Mais c'est devenu un fardeau parce que la technologie nous force à augmenter le rythme de travail. Au début des courriels, c'était normal que les gens attendent quelques jours avant qu'on réponde, comme une lettre envoyée par la poste. Aujourd'hui, on envoie un courriel et les gens s'attendent à une réponse immédiate. On l'utilise quasiment comme message texte. Les avancées technologiques nous surchargent mentalement, alors qu'elles devraient nous aider à mieux communiquer et à être plus efficaces. Combien d'heures par jour passe-t-on à la gestion de nos communications? C'est un problème au sens où il n'y a pas de temps pour se déposer et se concentrer. L'attention n'est jamais complètement concentrée sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce utile de passer autant de temps en communication numérique? Quand utilise-t-on réellement le téléphone? Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare de s'appeler. En plus de se surcharger avec des avancées technologiques, on se déshumanise un peu parce qu'on favorise l'efficience au détriment de la relation et du contact humain. Vous écoutez Entrevue, mieux vivre au travail et échapper à l'épuisement, un texte d'Annie Labrecque paru le 5 novembre 2024 dans Québec Science. Québec Science. Vous parlez de superposition de charge mentale. Pouvez-vous expliquer comment cela affecte la capacité cognitive des travailleurs et travailleuses au quotidien? Frédéric Banville. Prenons un exemple. À la maison, j'ai des responsabilités qui font partie de ma charge mentale, comme m'occuper des enfants ou gérer des conflits personnels, peut-être même liés au fait que je travaille trop. Quand j'arrive au travail, je ne laisse pas tout ça derrière moi. J'arrive avec ce bagage émotionnel. Et si le climat de travail est tendu ou que mon patron veut absolument que je livre un dossier, cela surcharge mes capacités. Forcément, je ne suis pas optimal à 100% au niveau cognitif. Mes fonctions mentales sont limitées et lorsqu'elles sont sollicitées par des soucis personnels et des demandes professionnelles, je ne peux pas accorder mon attention à plusieurs problèmes en même temps. Mon attention alterne d'un problème à l'autre. Ce manque d'attention va provoquer un ralentissement dans mon exécution, provoquer des erreurs ou causer des oublis. Québec Science. Dans votre livre, vous abordez l'épuisement professionnel et ses conséquences, la dépression, l'anxiété, les troubles de l'adaptation. Selon vous, pourquoi l'épuisement professionnel est-il encore sous-estimé comme problème de santé publique? Frédéric Banville. Je pense qu'il y a encore une tendance à individualiser le problème. Pourtant, tout ne repose pas sur les épaules de l'individu. L'entreprise a aussi sa part de responsabilité. Sur le plan individuel, on porte encore le préjugé que les difficultés de santé mentale sont synonymes de faiblesse, que le fait de vivre de la fatigue ou une certaine forme d'épuisement est normal et que cela passera, que ce ne sont pas des choses qu'on doit partager avec nos collègues. Il y a aussi cette difficulté à poser nos limites. Selon les entreprises, il y a des enjeux de rentabilité qui tendent à déshumaniser les individus. Je pense notamment aux infirmières durant la pandémie. On leur disait « on a besoin de bras ». Or, les infirmières ne sont pas juste des bras, mais aussi des têtes et des cœurs. Notre système capitaliste contribue à banaliser l'épuisement. Les individus et la société nord-américaine en général voient aussi cela comme une faiblesse. Malheureusement, cela engendre des coûts sociaux et économiques importants. Je pense que nous devrions accorder davantage d'attention à ces phénomènes individuellement. On a une responsabilité. Mais les employeurs aussi devraient, dans l'organisation du travail, modifier des aspects pour que ce soit plus doux pour les individus. Certaines entreprises sont déjà sensibles à cette question. Par exemple, dans le milieu universitaire, un comité en santé mentale et des politiques ont été mis en place. Il y a un effort qui est fait pour protéger la santé des employés. La CNESST, Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, impose aussi à l'employeur de protéger la santé physique et mentale de ses employés. Mais j'imagine que si l'entreprise pour laquelle je travaille est un géant technologique comme Google ou Amazon, ce n'est peut-être pas dans leur priorité. Québec Science. Comment réhabiliter la lenteur? Frédéric Banville. C'est une question que je me pose tous les jours, parce qu'on est rapidement emporté par le rythme effréné de la vie. Notre société valorise la vitesse, qu'on le veuille ou non. Pourtant, si faire l'éloge de la lenteur est important pour moi, peut-être devrais-je davantage en parler autour de moi, montrer l'exemple et parler des bienfaits et des effets positifs sur la santé psychologique. D'en prendre moins, d'en faire moins et de faire mieux. Chacun gagnerait à côtoyer des collègues en bonne santé mentale. Québec Science. Réussissez-vous personnellement à survivre à votre quotidien au travail? Frédéric Banville. Parfois, je me dis que c'est un peu ironique d'avoir écrit ce livre alors que mon agenda est aussi chargé. Mais c'est justement dans ces moments qu'on peut faire des choix. Sinon, on finit par se retrouver comme Sisyphe, cette figure de la mythologie grecque condamnée à pousser éternellement un rocher au sommet d'une colline, à répéter sans cesse les mêmes erreurs et revenir au même point. Personnellement, les responsabilités de direction m'ont empêché d'être pleinement épanoui au travail. Quand je me suis retiré de la direction, j'ai récupéré 80% de mon temps, ce qui m'a permis d'écrire ce livre. Cela m'a aussi fait réfléchir à ce que je ne veux plus reproduire. Aujourd'hui, j'ai encore une grande charge de travail. Il y a parfois des échéanciers stressants, mais j'ai gagné en qualité dans l'encadrement de mes étudiants, et cela compte énormément. Après tout, le plaisir d'un professeur d'université est d'enseigner et de découvrir de nouvelles connaissances. Il s'agit maintenant de garder cet équilibre et de ne pas tomber dans l'excès. Québec Science. Que souhaitez-vous que les gens retiennent de votre livre? Frédéric Banville. Nous manquons souvent de bienveillance envers nous-mêmes en raison du système dans lequel nous évoluons, mais à la fin de notre vie, si on regarde en arrière, se dira-t-on que cela a valu toute cette souffrance? Si la réponse est non, alors comment peut-on vivre autrement, malgré les contraintes du travail? C'était Entrevue, Mieux vivre au travail et échapper à l'épuisement, un texte d'Annie Labrec paru le 5 novembre 2024 dans Québec Science.
Biorégion ou barbarie, un texte d'Alain Deneau, paru le 11 novembre 2024 dans Nouveau projet. Et si le projet biorégional pouvait nous aider à traverser l'effondrement? Dans cet extrait de l'essai « Faire que » point d'exclamation, récemment paru chez Lux Éditeur, l'auteur et philosophe Alain Deneau appelle à un certain retour à la Terre. Comment faire pour passer de notre monde à ce monde-là? Se demande Kirkpatrick Sale. Que faire? En définitive, la question s'est peu posée de manière explicite dans des écrits de référence du biorégionalisme. Aucune réponse exacte. Pas besoin. Tout se ferait virtuellement. Leur corpus, en grande partie d'auteurs anarchistes, les amène à présumer que des forums horizontaux de démocratie directe s'organisent d'eux-mêmes entre citoyens devenus consentants. Qu'ils fleuriraient à la manière des plantes avec lesquelles il faudrait entrer en symbiose. Aux États-Unis, la question du régionalisme serait dans l'air du temps. Il suffirait de raviver les mœurs ancestrales du peuple pour qu'ils se souviennent avoir vécu à cette échelle. Suffisamment pour qu'un jour, les biorégions coulent de source, au moins partiellement, librement, sans déranger. La biorégion est appelée à s'adapter insensiblement aux conjonctures politiques, à l'instar du vivant. Or, l'anarchisme ne saurait désigner quoi que ce soit d'autre que le clin d'œil d'une panne institutionnelle, le moment événementiel d'où sourd une organisation nouvelle. Un événement politique est l'art de défaire les liens convenus, tant d'anarchie, pour les recomposer. Des raccourcis, des essais, des tentatives qui tentent de répondre aux nécessités de l'histoire par des fonctionnements qui échappent aux lourdeurs de la technocratie et à la hiérarchie des paroles autorisées. L'anarchée est l'heure allégale où se déclare arbitrairement, souvent par la force ou la violence, un ordre, un règne, une règle, des lois, une forme d'organisation. Walter Benjamin a démontré combien la loi constitutionnelle d'un État et son fondement juridique ne procèdent de rien. Un fondement toujours hors sol, une absence définitive de légitimité. L'État se part ensuite d'arguments, de symboles, de récits et d'écrans pour nier le caractère arbitraire de sa naissance et redouble d'ardeur pour réprimer tout acte de violence à son endroit, rappel de l'autre acte de violence auquel il doit son institutionnalisation. La biorégion, comme forme d'organisation, ne saurait faire exception. Le plus grand nombre devra l'imposer pour faire valoir des principes éminents et impérieux en ces temps de débâcle politique et écologique. Dans un temps événementiel qui sera celui de la politique active. Il nous paraît clair à nous qu'à la Renaissance, la politique s'organisait par strates, que les pouvoirs se distribuaient sur un millefeuille institutionnel. Un paysan voyait planer au-dessus de lui des strates de pouvoir, le royaume de France, la seigneurie à laquelle il appartenait, le vassal et l'Église lui infligeant tour à tour impôts, honoraires, loyers et dîmes. Ne perçoit-on pas aujourd'hui aussi nettement le partage encore plus complexe de l'autorité entre instances concurrentes? L'État lui-même se réfracte selon ses vocations législatives, exécutives et juridictionnelles, se stratifie sous la forme d'autorités régionales et municipales et se voit flanqué de pouvoirs financiers que sont les banques qui imposent leurs charges sous la forme d'intérêts. Bien qu'ils les autorisent, celles-ci peuvent se révéler, de fait, plus puissantes que lui. À cela s'ajoute la grande industrie, s'enrichissant souvent grâce à de faramineux taux de profit, est capable de poursuivre l'État devant des tribunaux ad hoc ou d'en corrompre les agents tout en le suppléant dans une multitude de secteurs, éducation, recherche, culture, aménagement du territoire, économie régionale. Enfin, viennent les petites mafias. Leur pizzo, impôt officieux, et l'ordre informel qu'elles régissent. Dans cet épais millefeuille, la biorégion marque un acte de résistance de la part de peuples régionaux qui entendent reconquérir leurs droits, se donner une souveraineté alimentaire, une autonomie énergétique et une liberté intellectuelle. Agonistique, la biorégion, pour s'imposer, est nécessairement l'œuvre de sujets déterminés à transformer des relations de survie, érigées par une nécessité historique en une forme d'organisation pérenne. La perspective biorégionale est un objet de désir. Elle a donné au cinéma son plus beau happy end. Il appartient au Sel de la Terre, un documentaire sur le photographe Sebastião Salgado, qu'a réalisé son petit-fils Juliano Ribeiro Salgado avec Wim Wenders. Mais ce film expose d'abord crûment son public aux violences terribles du XXe siècle. Dans le contraste du noir et blanc, nous assaille le bagne de la mine d'or de Serra Pelada au Brésil, la cruelle famine d'Éthiopie, la guerre ethnique des Serbes dans les Balkans et surtout, coup fatal, la pure catastrophe que représente le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Le héros du film se souvient avoir sombré dans une profonde dépression et ses photographies nous y entraînent avec lui. Comment racheter tant de malheurs? Je me suis retiré d'ici en ne croyant plus à rien. Je ne croyais pas qu'il y avait de salut pour l'espèce humaine. On ne pouvait pas survivre à une chose pareille. On ne méritait pas de vivre non plus. Personne ne méritait de vivre. Rentré chez lui, livide, accompagné de son héroïque épouse Lélia, il réinvestit avec elle leur ferme familiale du Brésil, alors en friche, une vaste étendue de poussière. La famille s'emploie à semer cette partie dévastée de la forêt tropicale. On croit revoir l'homme qui plantait des arbres sous la forme d'un essai cinématographique. En 10 ans, cette initiative conduira au déploiement de 600 hectares de forêt. Un parfait bonheur. C'est un miracle, pas moins, commente de sa voix douce Juliano Ribeiro Salgado envoie hors champ. La famille fonde l'Instituto Terra pour garder, sauf, un commun dédié à la biodiversité. Des témoignages comme celui-ci fleurissent aujourd'hui. Le documentaire River and Tides en est un autre. Il porte sur une incarnation parfaite de l'agir biorégional, l'œuvre d'Andy Goldsworthy, parangon du land art. Doux, impliqué, patient, grave, intime et universel, l'artiste réunit avec un naturel déconcertant philosophie, science et politique. Didactique, sans nécessairement le vouloir, il nous montre comment composer avec le territoire et le vivant. Le procédé, à l'œuvre, génère des formes à partir des éléments de la nature, comme si cette nature elle-même les avait générés. En fait, elle les a générés puisque nous en sommes partie intégrante et nous le redevenons dans cet acte. Nous ne sommes plus seulement la nature qui se défend, mais celle qui se déploie en symbiose avec les éléments. Les œuvres produites s'insèrent dans la nature parmi les miracles grands ou petits qu'elle engendre et s'y décompose plus ou moins rapidement dans son vaste mouvement global. De grands dômes de pierre sont fouettés par les marées, tandis que les agencements de pétales se dissolvent dans des points d'eau circonscrits. L'artiste touche à tout. Laine de mouton, tige en bois, mousse, brindille, glaçon. Pour travailler chaque matière, il lui faut la connaître techniquement, considérer sa provenance, sa gestation, sa production, son poids, sa consistance. Il l'apprivoise en usant dans ses compositions. Son leitmotiv, les courbes sinueuses du réel, inspirées des cours d'eau vus de haut, il les reproduit avec ses différents matériaux qui tombent sous sa main. Les murs de pierre en forêt, la laine de mouton tissée en fils épais ou encore les feuilles cousues les unes aux autres forment ces parcours serpentins qui se marient au paysage. Ici, surtout, la ligne intégrée au territoire, mouvante et incertaine, ne définit pas une frontière imposée par quelque géopolitologue ou puissance impériale. Elle suit un flux de vie et le révèle. Le mouvement accompagne les dynamiques du vivant, comme s'il s'agissait d'une arborescence de colonnes vertébrales. Les tracés ne définissent plus le pourtour territorial dans une volonté de se l'approprier, mais les lignes de force qui le constituent. C'est vrai en superficie comme en hauteur. Le fil qui longe le relief territorial se présente comme le pendant des profils urbains, les prétentieuses skylines, cédant ici la place à une compréhension organique du dénivelé physique pour en apprécier la densité plutôt que les limites. La matière nous parle, comme cette terre rouge vif, parce qu'à forte teneur en fer. Elle nous interpelle vivement, puisque cette même composante explique le rouge de notre sang. Nous sommes reliés à elle. Toute la société, à l'échelle de son village d'Écosse, se trouve emportée par cette cinétique. Goldsworthy observe une rue et se désole de sa sociologie. On y naît d'un côté où la mort est refoulée, on y meurt de l'autre où la naissance est oubliée. C'est à la condition de comprendre le cycle en entier qu'une société, comme tout, peut être bien portante. En s'entretenant, tout le projet bio-régional s'y trouve. Et l'œuvre s'attelle à faire qu'on éprouve, comprenne et mette en pratique ces rapports dignes de ce qu'on appelle en philosophie une économie. Alors, l'avenir est à nous. C'était « Biorégion ou barbarie », un texte d'Alain Deneau, paru le 11 novembre 2024 dans « Nouveaux projets ».